Alors, nous allons continuer ce problème de l'individuation. Vous voyez ce que ça veut dire ? Tel que saint Thomas nous le présente. Parce que c'est un problème quand même très important. Quelle connaissance avons-nous au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, de l'individu? Nous avons fait un effort qui continue d'analyse, saisir la source de toutes les déterminations de Pierre. On est parti d'un jugement d'existence. Pierre existe. Jacques existe. Puis on saisit progressivement, lentement, le point de vue de la substance comme principe de toutes les déterminations. Il faut toujours avoir présent cette induction. Elle est toujours en acte. Parce que mon intelligence ne pénètre en métaphysique que quand elle dépasse cette multiplicité des déterminations, des prédicaments, pour saisir ce qui est au-delà de cette diversité, qui est source de cette diversité, qui est le principe propre, la substance. Puis, nous avons fait cet effort de comprendre que ce principe subsiste dans l'être et cause d'être, c'est-à-dire qu'il possède par lui-même l'être, la subsistance. Et maintenant, nous essayons de préciser comment, oui, c'est le pot, c'est la question du comment, comment de fait cette substance existe. Je n'ai aucune expérience de réalité purement spirituelle. Mon âme, je la saisis à partir de mes opérations spirituelles, quand je pense, quand j'aime, je saisis qu'il y a une source d'intériorité en moi. Et cette source d'intériorité m'est toujours donnée à travers des opérations accidentelles qui passent. Quand je dors, j'existe toujours et je ne pense plus. Je ne peux pas identifier mon exister et ma pensée. Ça, je crois qu'on peut faire cette expérience facilement. Tous les soirs, quand vous êtes fatigué, vous commencez à décliner au point de vue de l'intelligence. Votre intelligence tombe dans les ténèbres. Et vous vous reposez. Et puis le matin, quand vous vous réveillez, vous essayez de réanimer la petite flamme. Et quand on est trop fatigué, la place de mettre le cours à 7h30, on le met à 8h30. Plus éveillé, c'est le signe de l'individuation. Alors, c'est bien évident, si vous étiez des purs esprits, pas besoin de vous reposer. C'est merveilleux d'être un pur esprit. Je sais pas très bien comment on vit, mais on vit comme ça. L'esprit, comme tel, n'a pas besoin de se reposer. Si vous reposez, c'est à cause de votre corps. Ça, vous êtes bien d'accord là-dessus. Et c'est votre corps qui, de temps en temps, encombre votre réflexion. Le corps tombeau de l'âme. Tous les soirs, je comprends Platon. Le corps tombeau de l'âme. Et le matin, je comprends Aristote. Je me réveille et vois que mon âme porte mon corps, et que mon corps devient comme un instrument, un organe, une manifestation de de ma pensée. Oui. C'est curieux, philosophiquement, ces deux aspects. Et le corps et tout ça. Quand je pense, c'est accidentel, ce n'est pas ma substance. Et pourtant, c'est moi quand même. Je pense. Ils ont fait l'effort de dépasser les opérations pour découvrir quelque chose de plus radical au niveau de l'être. Ma substance, c'est mon âme. Et mon âme subsiste dans mon corps. Puisque mon âme subsiste dans mon corps, mon âme va être individualisée par mon corps. Et mon âme donne à mon corps toute son intelligibilité. C'est sûr. Un corps vivant, c'est pas la même chose qu'un cadavre. Le passage du corps vivant au cadavre est quelque chose que je peux expérimenter. Et que j'expérimente, quelquefois douloureusement. Il y a quelque chose de très particulier. Alors, comment comprendre mon âme spirituelle, mon âme substantielle, qui informe mon corps? Comment va-t-elle s'individualiser? Et jusqu'où va l'individualisation? Est-ce que mon âme garde toujours quelque chose qui lui est propre? Ou est-ce que, du fait même qu'elle est unie au corps, elle perd son caractère propre? Elle devient divisible. Ou est-elle toujours indivisible? Mais le divisible et l'indivisible, le sensible et l'invisible, ce passage, c'est le problème de l'individuation, ça. C'est ce passage du DST au POS, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est, comment. Alors, il faut bien comprendre que ce passage est très très important pour l'intelligence humaine. De comprendre l'âme autant que j'ai pu essayer de la saisir comme substance, et l'âme dans son exercice, dans sa propre causalité par rapport au corps. Elle rend le corps vivant. Elle le spiritualise. Et en même temps qu'elle rend le corps spirituel, un corps vivant, le corps d'un homme est un corps spirituel. C'est pas le corps du singe. Et le sourire donne au corps son caractère spirituel. En même temps, le corps individualise l'âme. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Oui, c'est là la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que le corps individualise l'âme? C'est que mon âme, c'est mon âme. C'est à ce moment-là que vous dites ça. C'est très bien de faire l'analyse, mais il ne faut jamais s'arrêter à l'analyse. Parce qu'on ne vit pas de l'analyse. L'analyse, c'est, il faut la faire, mais il faut ensuite revenir à ce qui existe. Et qu'est-ce qui existe? C'est Pierre. C'est-à-dire l'âme dans le corps. Quand vous donnez la main à quelqu'un, vous touchez son corps. Est-ce que vous touchez son âme? Et en donnant la main, vous dites, oh, quelle belle âme. Et là, tu d'une extraordinaire finesse, oh, je te comprends. Vous touchez son corps, et vous touchez un corps vivant, et vous touchez un corps spiritualisé, et vous touchez une âme individualisée. C'est par l'individu que vous atteignez l'âme. N'oubliez pas que la scolastique décadente a identifié la substance avec le sujet. Ah, ça c'est très important aussi à saisir. Regardez dans n'importe quel petit manuel, Macquart si vous voulez, le dernier manuel stomiste. C'est en latin, un latin de cuisine, en latin du cas de sauce. Alors vous voyez que la substance, c'est le sujet. C'est le sujet. C'est le suppôt. Alors vous voyez qu'à ce moment-là, le principe disparaît. Il n'y a plus d'induction. Bon, vous restez uniquement Pierre qui reçoit toutes les attributions. Pierre qui existe. C'est tout. Alors, je vous lis ces quelques textes de saint Thomas. Mais c'est intéressant pour situer un peu le problème. Alors n'oubliez jamais que quand saint Thomas écrit, il parle en théologien, et pour le théologien c'est un problème très important. Oui, ce serait là où faudrait situer le problème de la réincarnation. Ce serait pas compris ce que c'est que l'individu. Si on comprend bien l'individu, bah oui, l'individu, il est unique. Je ne peux pas me répéter, moi. L'union du corps et de l'âme est substantielle. Donc, mon âme ne peut pas passer d'un corps à un autre corps. Oui. Mon âme ne vieillit pas, mon corps vieillit. Alors, je peux trouver que le corps, c'est comme la paire de gants de l'âme. Et c'est trop vieux. Je l'enlève. Puis je prends une autre paire de gants. Moderne. Style nouveau. Non, je peux pas faire ça. Parce que le corps n'est pas l'habit de l'âme. Le corps est entièrement assumé par l'âme. Totalement assumé par l'âme. Alors, je reprends et je continue ce texte. Il faut y réfléchir là-dessus, c'est un problème très très important. Et dans Aristote, c'est saisir ce qu'est l'individu. Et Castone, ce qu'est chacun. Quand vous dites « je suis », c'est tout votre individualité et votre personne qui est présente. Je suis, j'existe. Alors je reprends un tout petit peu ce texte que nous avions commencé à lire, ce texte important dans ce domaine, difficile mais important. Donc je vous avais dit que c'est saint Thomas qui essaie de préciser ce qu'est l'individuation dans son commentaire de Boèce, du Détritate de Boèce. Je dis, c'est rare que saint Thomas dise ça, hein, je dis, ego dico, en tant que tel, à cause de l'âme raisonnable, qui d'une certaine manière est par elle-même ce quelque chose, mais non pas en tant que forme. Vous voyez, et par elle-même l'aspect de la subsistance. La forme devient cette forme du fait qu'elle est reçue dans la matière. matière, pure puissance. De la matière au niveau substance, au niveau substantiel. Et de la matière en tant qu'elle fait que c'est cette forme, mon âme. Car la forme n'est pas individuée par le fait qu'elle est reçue dans la matière, si ce n'est pour autant qu'elle est reçue dans cette matière, distincte et déterminée ad hic et nunc, c'est-à-dire là et maintenant. C'est le voici. Et quand Jean-Baptiste montre voici, voici l'agneau de Dieu, c'est l'individu, voici cet homme. Sartre qui dit Pierre est-il au café? Il cherche un individu, il cherche pas l'homme. C'est comme ça en fait. On vous dit d'aller au-devant à la garde de telle personne qui vient. Et on vous a dit que cette personne, vous pourriez la distinguer tout de suite parce qu'elle a tel habit. Si vous la connaissez pas du point, comme disait le père Garrigou, vous la distinguerez tout de suite. Elle est très intelligente. Alors vous la distinguerez tout de suite parce qu'elle est très intelligente. C'est ça qu'on fait, voyez, l'individu. Vous cherchez un individu. Et vous attendez telle petite remarque particulière. Ad hinc et nunc. C'est ça l'individu. Or, la matière n'est divisible que par la quantité. C'est pourquoi le philosophe dit au livre premier des physiques que si la quantité est enlevée, la substance demeurera indivisible. Et c'est pourquoi la matière devient cette matière et désignée signata selon qu'elle est sujet des dimensions. Alors là, il y a trois choses très importantes à bien comprendre. La matière, la quantité, et par la quantité, vous avez tout de suite le divisible. Par le divisible, vous avez ce qu'on peut désigner, signata, ce qu'on peut désigner, ce qui est capable d'être désigné, montrer du doigt. Vous pouvez pas montrer du doigt la matière. Vous pouvez pas montrer du doigt l'âme. Qu'est-ce que vous pouvez montrer du doigt? La matière, signata. Et par le fait même, les dimensions. Or, ces dimensions peuvent être considérées de deux manières. D'une part, selon leur détermination. Et je dis qu'elles sont terminées selon une mesure et une figure déterminée. Et ainsi, elles se rangent dans le genre de la quantité comme des êtres parfaits. Donc dans la quantité, qu'est-ce qui est parfait? C'est une matière déterminée, terminée. Le terme dans la quantité. Considérées ainsi, elles ne peuvent être principe d'individuation. Donc, considérées ainsi, elles ne peuvent être principe d'individuation. Car, puisqu'une telle détermination des dimensions varie fréquemment dans l'individu, il s'ensuivrait que l'individu ne demeurerait pas toujours le même numériquement. C'est vrai, la dimension que vous aviez quand vous étiez dans le berceau n'est pas la même que maintenant. Ça c'est sûr. Et pourtant vous êtes le même individu. Alors qu'il a grandi, c'est sûr. Mais vous êtes le même individu. Est-ce que vous avez changé d'individu depuis que vous êtes dans le berceau? Ah, vous avez changé beaucoup. Votre quantité a grandi. Les déterminations ont grandi. Alors voyez, je ne peux pas dire que l'individuation, c'est cette quantité terminée de telle taille. Vous pesez 70 kilos. Au bout d'un certain temps, vous pesez 90 kilos. Est-ce que votre individuation a changé? Est-ce que vous êtes encore le même individu? C'est sûr, vous êtes le même individu. Donc je ne peux pas dire que c'est cette quantité comme telle qui touche la Ainsi, puisque ces dimensions sont du genre des accidents, la diversité numérique se réduit tantôt à celle de la matière, tantôt à celle de l'accident, et ceci en raison des dimensions susdites. Les autres accidents ne sont cependant pas principes d'individuation, mais principes de connaissance de la distinction des individus. Et par là, l'individuation est attribuée aussi aux autres accidents. Oui, c'est pas commode, hein. Je vous lis ce texte parce qu'il est très complexe. On voit très bien ça dans ma tour d'autour. Et de manière de regarder les dimensions dimensionnelles de la quantité. Bon, terminé, c'est facile, hein. Votre quantité est terminée en ce sens que vous pesez tant. Votre dimension quantitative a changé dès que vous aurez changé de poids. Si vous grandissez ou vous diminuez, pendant un certain temps on grandit, puis après on diminue. On se tasse, comme on dit. Alors la quantité diminue. C'est exactement la même personne. Mais il y a quelque chose de changé. Donc votre individuation ne peut pas être la quantité terminée. Ça ne peut être que la quantité liée à la matière substantielle. Pour faire que, par la quantité, la matière devient divisible. Et par la matière, la quantité devenant divisible, on peut comprendre alors l'unité numérique. Alors comprenez bien ces distinctions que fait Saint Thomas ici. Ce sont des distinctions logiques et intéressantes. Comment Saint Thomas les utilise? On a l'unité générique, l'unité spécifique, l'unité numérique. Et c'est les trois unités dont il se sert ici. Il faut savoir ce que c'est. Et puis, vous avez en plus tel accident qui s'ajoute à l'unité numérique pour manifester cette unité numérique. On a tous quelque chose d'accidentel et d'original. choses-là qui sont du reste très intéressantes pour comprendre ce que c'est que l'unité générique. Un enfant peut être adopté par une louve. Et il vit. Et puis il prend les mœurs. L'unité générique. L'unité spécifique. Ah, c'est lorsqu'à partir de l'animal va apparaître la raison. Et l'unité numérique, c'est lorsque, à partir de l'aspect animal et spécifique, il va y avoir quelque chose d'unique. L'unité numérique, c'est quelque chose d'unique. Il ne faut pas confondre l'unité numérique avec le chiffre biologique. Le chiffre biologique fait partie de l'unité numérique. C'est la manifestation visible de l'unité numérique. Vous savez bien le chiffre biologique qui fait que chacun d'entre nous, on est unique dans notre chiffre biologique. On ne peut jamais avoir le même chiffre biologique. C'est très curieux du reste. C'est très intéressant comme découverte. Comme il n'y a pas deux feuilles d'arbres qui sont les mêmes. Ce niveau biologique, il y a quelque chose d'unique. Ici, c'est au niveau philosophique. Ce niveau donc substantiel. Il y a quelque chose qui fait que c'est mon âme. Alors vous direz, mais l'âme, elle est spécifique. Il y a l'âme humaine. Elle est spécifiquement la même. La même âme. Spécifiquement. C'est pour ça qu'on peut se parler. On a tous, c'est pour ça qu'on peut faire des gestes, qu'on comprend. On a tous la même âme spécifique. Mais qu'est-ce qui va faire que cette âme va être mon âme? Et que je ferai celle de mon voisin en disant, ah oui, il y a quelque chose d'unique. Vous voyez, alors ce qui est très gênant, je dis tout de suite, ce qui est très gênant, c'est que l'unité générique, l'unité spécifique, l'unité numérique, c'est logique. C'est de la logique, ça. Or, je suis en métaphysique. En métaphysique, j'ai un autre langage. Et c'est ça la très grosse difficulté, vous voyez. Saint Thomas et théologien. Le théologien peut se servir de la métaphysique et de la logique sans crier gare. Parce qu'il a une lumière supérieure. La foi. Mais si je repense saint Thomas au point de vue métaphysique, le problème du principe qui fait l'individu, le principe d'individuation, et quelque chose de métaphysique. Au niveau métaphysique, comment je vais parler? Parce que c'est important de voir comment je vais parler au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, je parle des principes propres. Je parlerai donc du principe propre de l'âme, qui est substance. Je parlerai du corps. Le principe propre qui constitue l'individu. Il y a l'âme et le corps. Alors, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose que l'unité générique et l'unité spécifique. Mais je pourrais dire que par le corps, j'ai l'unité générique. Par l'âme, j'ai l'unité spécifique. Le fondement de l'unité générique et de l'unité spécifique, je les trouve dans ces principes propres de l'homme. Mais au plan métaphysique, je parle de l'âme et du corps. Saint Thomas ne parle pas de l'âme et du corps. Il est en logique. Alors pourquoi Saint Thomas reste-t-il avec ses principes logiques et qu'il ne repense pas tout au niveau métaphysique? C'est parce que, de fait, il faut bien reconnaître ça, transmis l'Aristote logique. Avicenne transporte l'Aristote métaphysique. Et saint Thomas veut redécouvrir l'Aristote métaphysique dans toute sa pureté. Mais quand il fait le Tetrinitate de Boès, c'est pas encore très très net. Le point de vue logique et le point de vue métaphysique, c'est assez lié. Et en théologie, c'est pas gênant. Mais si je veux, moi, le penser au point de vue philosophique, je suis obligé de reprendre les principes propres. Et alors, à ce moment-là, je me pose la question, qu'est-ce qui fait l'individu? Qu'est-ce qui fait l'individu? Est-ce l'âme? Est-ce le corps? Là, je suis au niveau des principes. Donc, au niveau des principes, la recherche de la connaissance la plus profonde de ce que c'est que l'homme. L'homme implique l'âme et le corps. Mais là, je suis dans la recherche de l'analyse. Le fruit de l'analyse, c'est de découvrir les principes propres. Mais si je veux connaître ce qu'est l'individu, je ne peux pas rester dans l'analyse. Je dois prendre une nouvelle manière de connaître, c'est le comment. C'est le pose. C'est le comment. Ici, je suis dans la recherche du tiesti. Qu'est-ce ? Or, je crois que c'est cela qui a compliqué tout problème. C'est que on a pris des données du théologien. Le théologien, lui, peut se servir aussi bien de la métaphysique que de la logique. De l'interrogation du tiesti, qu'est-ce ? Et de l'interrogation du pose, comment ? Le théologien cherche avant tout le comment au niveau de Dieu. Quand il est au niveau de l'homme, il se sert des principes et du comment. Il ne fait plus la distinction. Et c'est ce qui explique comment saint Thomas va nous parler, on va le voir tout de suite, d'un principe d'individuation. Alors que ce n'est pas un principe. C'est une manière particulière d'être. Mais une manière particulière d'être qui s'enracine dans les principes. Dans les principes propres, l'âme et le corps. Mais il n'y a pas de principe d'individuation. C'est un fait. Seul le singulier existe. Seul l'individu existe. Donc, ça touche ce qu'il y a de plus profond en moi. Et ça me met dans une situation unique. Je suis unique comme individu. Aliquide. C'est aliquide. Or, aliquide, saint Thomas le met comme un transcendantal. C'est ça qui est très curieux. Donc ça touche l'être dans ce qu'il a de plus être, puisque seul l'individu existe. Donc je dépasse, si vous voulez, le point de vue de l'analyse pour revenir au point de vue du comment, et je me place à un point de vue existentiel, comme dit Heidegger. en tant qu'individu, c'est mon corps. C'est les deux en même temps. C'est mon âme informant mon corps. Et mon âme informe mon corps, qui est un corps qui implique la quantité. Mais c'est mon âme. Il faut bien comprendre ça. Alors, à ce moment-là, la fameuse dispute entre thomistes et scotistes disparaît. Nous verrons cette discussion la fois prochaine, parce que c'est important. Ça fait partie, si vous voulez, au point de vue information historique, de ce que représentent ces deux grands courants qui ont existé et qui se sont battus au niveau de la divulgation. Parce qu'on a voulu pousser l'analyse jusqu'à l'individu. Or, l'individu est ineffable. Hein? On dit toujours ça. L'individu est ineffable. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que l'individu est ineffable? C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'analyser. Il échappe à l'analyse. Je peux analyser les principes, tu vois, saisir par l'analyse les principes. Mais je ne peux pas saisir par l'analyse l'individu. L'individu a quelque chose d'unique. Je suis obligé d'aller très loin pour saisir Aliquid. Or, Aliquid, c'est justement l'individu. Comment saint Thomas précise-t-il l'individu Aliquid? Ce qui est séparé des autres et ce qui implique en soi-même une unité. Et donc, c'est vraiment à ce niveau transcendantal que je peux comprendre l'individu. L'individu a quelque chose de transcendantal. Il est au-delà de toute analyse. Et il se ramène au fait que la substance, mon âme, qui subsiste par elle-même, est capable d'assumer le corps, de l'informer. Et en faisant cela, elle-même, mon âme, au corps son caractère d'individu. Donc l'individu, comme tel, se fonde sur l'âme et le corps. Je ne peux pas parler d'un principe d'individuation qui est séparé de l'âme. Alors quand on a dit l'individuation, c'est la quantité.